Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité sur Radio Orient. Comme chaque semaine, votre rendez-vous avec l'Humanité. Bonjour Patrick Le Yarrick.
Bonjour.
Votre édito de Gaza à Tel Aviv, faire vivre l'inconditionnelle humanité. Vous faites part notamment de vos déplacements à Gaza ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a marqué au sein de cette enclave palestinienne?
Il y a les deux choses. Déjà, j'y ai été souvent après des bombardements, et j'y ai été aussi comme député européen, vérifier les projets qui étaient mis en œuvre avec les fonds européens. Mais ce qui m'a marqué le plus, c'est l'intelligence des gens, l'intelligence des Palestiniens, leur savoir-faire, qu'ils soient des travailleurs manuels, qu'ils soient des créateurs, le dévouement des femmes, et surtout la jeunesse qui est dans les rues, autant des adolescents que des jeunes enfants qui viennent autour de vous et qui sont pleines de vie et qui sont, en quelque sorte, quand vous les regardez dans les yeux, porteurs d'avenir. Et ça rend d'autant plus terrible ce qui est en train de se passer aujourd'hui.
Et vous soulignez qu'aucun crime ne peut réparer un autre crime, en référence à l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre dernier en Israël.
Oui, voilà, je crois pas qu'il y a de solution à la barbarie qui a été perpétrée en lui opposant une autre barbarie. On ne peut pas régler des crimes de guerre par d'autres crimes de guerre. Il n'y a que la justice qui puisse régler cela. Que on prenne des dispositions pour empêcher le Hamas de nuire, après l'avoir financé d'ailleurs et après l'avoir soutenu, est une chose. Autre chose est de tuer des enfants, des femmes, des hommes et des travailleurs palestiniens en représailles, en vengeance, parce que le droit à la vengeance n'existe pas du tout dans le droit international. Une coalition pour la paix, une coalition pour créer les conditions de la levée du blocus et du développement de l'ensemble de la Palestine est sûrement bien plus efficace que les bombes qu'on va déverser à Gaza. Parce que voulez-vous? Quand vous avez vécu ça, moi je n'ai fait qu'y passer 8 jours, 10 jours, et c'était déjà dur, mais quand on songe à ceux, aux enfants qui sont aujourd'hui, aux adolescents qui sont aujourd'hui sous les bombes, qui sont déplacés, qui voient leurs parents, leurs oncles, leurs frères tués. Que voulez-vous qu'ils puissent se former? Comment voulez-vous qu'ils puissent réagir, sinon qu'en devenant eux-mêmes des radicaux dans le mauvais sens du terme, bien souvent? Je n'excuse pas cela, mais par contre, ce que je n'excuse pas, c'est mener aujourd'hui de l'armée israélienne et un trop grand soutien du camp occidental, même si ça commence à bouger, en tout cas dans les mots.
Lorsque vous évoquez ces visages des Palestiniens, à vous lire, on a le sentiment que vous répondez à une forme de déshumanisation subie par les Palestiniens aujourd'hui.
Oui, malheureusement, c'est une déshumanisation. Le fait d'aller égorger des gens, égorger des enfants comme l'a fait le Hamas, est de l'anti-humanisme. Mais le fait de bombarder des civils et des innocents est un autre anti-humanisme. Autrement dit, ce que dit le secrétaire général de l'ONU autour de l'idée de la crise d'humanité, je crois, est parfaitement vrai. C'est l'humanité qui est en train, peu à peu, de partir, parce que, justement, des hommes comme le secrétaire général de l'ONU et des sages qui existent dans le monde ne sont aujourd'hui pas du tout écoutés. Au contraire, on laisse violer en permanence le droit international, et ceci est extrêmement dangereux pour l'avenir, pour nous toutes et nous tous.
C'est pourquoi vous parlez de choc des barbaries.
Oui, c'est un choc des barbaries. Ce n'est pas un choc des civilisations ni un choc des religions. Il ne faut pas voir en l'autre, je crois, la religion qu'il pratique. Il faut voir dans l'autre un être humain qui partage comme vous des sentiments, des émotions, qui partage vraisemblablement la volonté de construire ensemble un autre monde en harmonie, de vivre bien, et c'est de cela qu'il faudrait urgemment sortir aujourd'hui.
Et vous soulignez que la mobilisation populaire mondiale commence à faire bouger certaines lignes aux États-Unis et en France.
Oui, par exemple aux États-Unis, le président Biden et même Blinken, le secrétaire d'État Blinken, ont commencé à parler d'une nouvelle manière, d'une nouvelle façon, en faisant des recommandations à Israël. Évidemment, ils n'en sont pas, eux, complètement au cessez-le-feu, mais en tout cas, ils sont autour de l'idée de la trêve humanitaire qui, pour moi, ne suffit pas. Mais déjà, ce serait un premier pas. Et vous avez vu, le président de la République emploie maintenant, après la ministre des Affaires étrangères, le mot de cessez-le-feu. C'est ce qu'il demande. C'est-à-dire, il a, dans la conférence pour les dons humanitaires qu'il a organisée, il s'est prononcé nettement pour un cessez-le-feu. Je pense que c'est un bouger qui est lié évidemment aux atrocités et au fait que le monde entier est en train de réprouver ça, mais lié aussi aux mobilisations citoyennes qu'il y a dans notre pays, qui sont des mobilisations citoyennes pour la sécurité, la justice et la paix.
Emmanuel Macron, vous le dites, qui appelle à œuvrer, à un cessez-le-feu. Et selon vous, la libération des prisonniers politiques palestiniens, la libération de Marwan Barghouti, constituerait un pas décisif vers la liberté de toutes et tous?
Moi, je crois que c'est une grande question, parce que emprisonner une partie des responsables politiques palestiniens, c'est ne pas vouloir la liberté dans l'ensemble de la Palestine. Et bien souvent, on dit, et c'est assez vrai, que il n'y a pas de solution aujourd'hui, ni avec M. Netanyahou, ni avec l'autorité palestinienne telle qu'elle existe. Or, vous avez sans doute vu, des enquêtes d'opinion faites en Palestine aujourd'hui montrent que la personnalité la plus populaire, celle qui serait susceptible de fédérer l'ensemble des factions palestiniennes, parce qu'il le fait déjà dans les prisons, c'est le nom de Marwan Barghouti qui est prononcé, qui ressort. Autrement dit, si on obtenait la libération de Barghouti, comme on a fait celle de Nelson Mandela, vraisemblablement, on trouverait un nouveau chemin pour à la fois fédérer les factions palestiniennes, faire reculer le fanatisme et l'obscurantisme, et trouver un moyen de la sécurité pour Israël et de la construction d'un État palestinien, dont je rappelle qu'il ne faut pas seulement dire les mots État palestinien. Il faut que cet État soit viable, soit souverain, soit démocratique. Et donc, il faut revenir aux frontières de 67 et Jérusalem-Est comme capitale des deux États.
Merci, Patrick Le Yarrick.
Merci bien.
Votre édito dans l'Humanité et sur votre blog patrickleyarrick.fr, de Gaza à Tel Aviv, faire vivre l'inconditionnelle humanité. C'était Rendez-vous avec la rédaction de l'Humanité Dimanche sur Radio Orient.